slow. Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel, il est 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats se poursuivent ce matin autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. À nouveau, on signale d'importants mouvements de population. Au Gabon, le premier tour de la présidentielle est officiellement fixé au 12 avril. Au Tchad, une querelle épistolaire inédite entre le président Mahamat Déby et son frère Adam. Le chef de l'État a répondu par voie de presse à une lettre ouverte virulente de son cadet. Le chef de la police judiciaire libyenne Osama Al-Masri Najim, interpellé en Italie en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale, mais relâché 3 jours plus tard. Rome a-t-elle voulu ménager la Libye, son partenaire dans la lutte contre l'émigration clandestine? Virginie Colombier, professeure à l'université Luis Guido Carli de Rome, est notre invitée. Dans l'est de la RDC, des combats se poursuivent donc ce matin autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Les forces armées congolaises et leurs alliés affrontent les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Pauline Azidi, on vous retrouve en direct de Kinshasa. Ces affrontements ont fait monter la pression sécuritaire sur la capitale provinciale du Nord Kivu.
Oui, des affrontements assez violents qui ont commencé aux alentours de 4 heures ce jeudi matin. Des bombardements venus des positions du M23 et des militaires rwandais en direction de celles des forces congolaises et de leurs alliés à Sake. L'armée n'a pas encore communiqué officiellement sur ces combats, mais depuis, des détonations sont régulièrement entendues jusqu'à la ville de Goma. Ces affrontements ont déjà provoqué d'importants mouvements de population. Vous le disiez, plusieurs camps déplacés sont situés à l'ouest de la ville, le long de la route qui mène justement à Sake. On estime qu'il y a environ 600 000 personnes déplacées dans les alentours de la capitale provinciale, à l'ouest mais aussi au nord, dans plusieurs camps. Et dans la ville, certaines écoles ont renvoyé les élèves chez eux.
Alors que sait-on des forces militaires en présence dans ce secteur ?
Les FARDC et les Wazalendo, ces groupes d'autodéfense alliés de Kinshasa, ne sont pas seuls dans cette zone de Sake. Il y a des forces de la MONUSCO, la mission onusienne, et de la SAMI-DRC. Ce sont les troupes de la communauté d'Afrique australe, principalement des troupes sud-africaines. D'ailleurs, la ministre de la Défense de Pretoria est censée être sur place actuellement. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations précises sur leur implication dans les combats de ce jour. Selon plusieurs témoins, des chars de la MONUSCO et de la SADEC ont été vus en direction du front.
Les combats s'intensifient, Pauline Azidi, depuis l'échec du sommet de Luanda, mi-décembre.
Oui, le ministre congolais de la communication, Patrick Moumeya, le disait lui-même sur notre antenne ce matin. Le processus de Luanda peine à être réactivé depuis début janvier. Les experts sont d'ailleurs assez pessimistes quant à de nouvelles négociations. Le Rwanda exige des pourparlers directs entre le groupe armé et le pouvoir congolais, alors que pour la RDC, c'est une ligne rouge non négociable depuis le début des hostilités. Kinshasa continue de réclamer des sanctions ciblées contre le Rwanda, une idée qui n'est plus tabou de l'aveu de diplomates occidentaux, reste à convaincre les pays africains actuellement membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce sera l'un des enjeux de la délégation congolaise au prochain sommet de l'Union africaine mi-février. Mais alors, face aux évolutions très rapides sur le terrain, est-ce que les choses peuvent s'accélérer? Est-ce qu'il peut y avoir un regain de pression diplomatique sur Kigali? Ce sont encore des questions en suspens.
Pauline Azidi, en direct de Kinshasa. Au Gabon, le premier tour de la présidentielle fixé par le gouvernement au 12 avril, moins de 3 mois donc, avant ce scrutin clé sur le chemin de la fin de la transition ouverte par le coup d'État contre Ali Bongo, Yves-Laurent Goma.
La date du 12 avril prochain n'est pas une grande surprise pour la classe politique et les Gabonais en général. Une rumeur orchestrée sur les réseaux sociaux, sans être démentie, annonçait déjà l'élection à cette période. Après le référendum du 16 novembre dernier, qui a permis d'adopter une nouvelle constitution, le ministère de l'Intérieur avait immédiatement lancé la révision de la liste électorale. L'opération démarrait le 2 janvier, prend fin le 31 de ce mois. Parallèlement, une commission s'est chargée de rédiger le nouveau code électoral. Celui-ci a été adopté par le Parlement dimanche dernier. Le texte non encore rendu public fixe, entre autres, les critères d'éligibilité à la présidence de la République. Il autorise notamment les militaires, les magistrats et les comptables publics à être candidats à toutes les élections. Si la Cour constitutionnelle ne retoque pas cette disposition, le général Brice Clotaire Oligingema, qui s'est emparé du pouvoir après le coup d'État du 30 août 2023, pourrait être candidat. Il est silencieux sur ses intentions, même si ses partisans appellent à sa candidature. Des leaders politiques et associatifs s'y opposent. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Au Tchad, une étonnante querelle publique entre le président et l'un de ses frères. Mahamat Idriss Déby a répondu à travers un média proche du pouvoir à une lettre ouverte de son frère Adam. Dans ce courrier, ce dernier qui vit en exil en Égypte depuis 10 ans s'en prenait au chef de l'État, Esdras Dikoumana, qui l'accuse de conduire le pays à la ruine.
Solitude, trahison, exclusion du clan familial. Après avoir décrit les épreuves qu'il endure depuis qu'il vit en exil, Adam Idriss Déby déverse dans sa lettre à cœur ouvert tout le fiel accumulé contre son petit frère devenu chef de l'État et maréchal du Tchad. Mahamat Idriss Déby est devenu le chaos à Sainte-Île en l'accusant de ne laisser le choix au peuple tchadien qu'entre la guerre civile ou son joug sans merci. De manière surprenante, estime un observateur, le président tchadien a réagi très rapidement et personnellement via une missive publiée par MRTV, un média qui lui est très proche. Les accusations de son frère, c'est le fruit, explique Mahamat Déby, de la haine et de la jalousie qu'il lui voue depuis 10 ans, lorsque leur défunt père l'avait placé à la tête de la DGCI, la garde présidentielle, au-dessus de son grand frère qui en était le chef d'état-major. Inacceptable pour Adam Idriss Déby à cause de son ego surdimensionné, écrit son cadet. Pour un politologue tchadien qui a requis l'anonymat, cet échange épistolaire vient rappeler une fois de plus que la famille Itno est toujours divisée, 3 ans après le décès de Idriss Déby père. Dommage, a-t-il conclu, que les Itno ne parviennent plus à laver leur linge sale en famille, comme à l'époque du père.
Au Bénin, le procès Boko et consorts a repris ce matin pour quelques heures devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Sans avocat, les premiers avaient claqué la porte de l'audience dès le début du procès. On attendait aujourd'hui des conseils commis d'office, mais ça n'était pas le cas. Les accusés Olivier Boko et Osvaldo Mecchi ont demandé un délai de 15 jours pour en trouver d'autres. Finalement, la cour accorde aux accusés jusqu'à lundi prochain. L'audience reprendra donc le lendemain, le 28 janvier. La chanteuse malienne Rokia Traoré, remise en liberté hier soir à Bruxelles, elle aura passé 7 mois en cellule. D'abord en Italie, où elle avait été arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par la Belgique. Puis à Bruxelles, après son extradition. Un accord a finalement été trouvé hier lors d'une nouvelle audience dans le conflit qu'il oppose à son ancien mari au sujet de la garde de leur fille. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Rokia Traoré n'était pas présente à cette troisième audience, c'est donc en prison qu'elle a appris la nouvelle de sa libération. Avec le père de sa fille, Yann Gossens, les avocats ont réussi à ficeler un accord qui a été estimé de bon augure par la juge. Celle-ci a donc ordonné que Rokia Traoré soit libérée de la prison bruxelloise de Haren, où elle est incarcérée depuis le 29 novembre. Maître Dimitri Debeco, avocat de Rokia Traoré.
Ce processus-là, un processus de médiation qui a duré pendant 2 semaines, a abouti à un accord qui est évidemment confidentiel, mais qui porte sur l'avenir de cet enfant. Nous avons pu exposer cela au tribunal qui, sur cette base-là, a voulu donner sa chance à cet accord et donc permettre à la maman avant tout de retrouver la liberté pour que maintenant cet accord puisse se concrétiser. En réalité, la condamnation par défaut à 2 ans d'emprisonnement a été annulée aujourd'hui puisque le tribunal a reçu l'opposition de Mme Traoré à cela. Et donc aujourd'hui, Mme Traoré retrouve la liberté sans condition, mais en devant encore être rejugée.
Les audiences pour valider devant un juge l'accord sur la garde de l'enfant auront lieu fin juin et ultérieurement aura lieu une autre audience liée à la non-représentation d'enfants qui avait valu 2 ans de prison à la chanteuse malienne. Mais de l'avis même des avocats du père de l'enfant, c'est une audience, je cite, pour la forme. Il semble donc y avoir peu de chances que Rokia Traoré soit condamné. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Polémique en Italie après la remise en liberté d'un responsable libyen visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Osama Al-Masri, c'est son nom, est le directeur de la police judiciaire libyenne. Il est recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment pour des actes de torture dans un centre de détention qu'il dirige près de Tripoli. La semaine dernière, il s'était rendu à Turin pour assister à un match de football. Il a été interpellé, mais 2 jours plus tard, le voilà remis en liberté, officiellement pour vice de procédure, Anne Lenir.
En Italie, suivant une loi de 2012, le ministre de la Justice doit être averti en premier de l'interpellation d'un individu en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il doit ensuite demander à la Cour d'appel de Rome l'autorisation de sa détention provisoire. Mais le garde des Sceaux, Carlo Nordio, aurait reçu trop tardivement les informations sur l'arrestation du chef de la police judiciaire libyenne le 19 janvier à Turin. D'où la décision de la Cour d'appel d'invalider, le 21 janvier, en fin d'après-midi, l'arrestation d'Osama Al-Masri pour vice de procédure. Toutefois, cette version officielle des faits pose question, notamment parce qu'un avion a été mis à disposition par Rome dès le matin du 21 janvier pour rapatrier le responsable sécuritaire libyen à Tripoli. Scandalisé, l'opposition suspecte le gouvernement d'avoir protégé Osama Al-Masri pour ne pas remettre en cause les accords entre Rome et Tripoli visant à freiner les flux migratoires vers l'Italie. Elle réclame avant tout les explications de Giorgia Meloni devant le Parlement. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et on y revient dans 10 minutes avec notre invité. En Tunisie, ce 23 janvier est journée nationale de l'abolition de l'esclavage. Pour l'occasion, des ONG de défense des droits de l'homme ont réuni les familles de militants de défense des migrants arrêtés sur ordre des autorités. 9 personnalités arrêtées à quelques mois d'intervalle. Elles sont accusées officiellement d'infractions financières ou d'avoir hébergé illégalement des migrants. Des accusations fantaisistes pour leur soutien, alors que le président Kais Saied multiplie les sorties au vitriol contre les étrangers. À Tunis, le reportage de Lilia Blaise.
C'est au cinéma Le Rio, en plein centre-ville de Tunis, que les familles et soutiens des 9 détenus se sont réunis ce mercredi pour témoigner du sort des prisonniers. La majorité ont été arrêtés l'année dernière, comme Sadia Mosbeh, présidente de l'association antiraciste Nemti, et arrêtée le 6 mai 2024. Sa nièce, Sabeh Mosbeh, est venue exprimer sa solidarité.
On va dire, j'ai des informations, Justine, elle va bien. Donc je ne peux pas savoir si on essaye de me protéger ou protéger mes procès, mais on me dit tout le temps que tout va bien, elle tient le coup. Pour le moment, je pense que c'est vrai.
Âgée de 64 ans, Sadia Mosbeh est détenue pour soupçon de blanchiment d'argent dans l'attente d'un jugement. Mustapha Gemali, ancien directeur du Conseil tunisien pour les réfugiés et âgé de 80 ans, est emprisonné depuis 9 mois. Il est accusé d'hébergement illégal de migrants. Fadel Gemali, son fils, dénonce le manque d'informations autour de son dossier.
Mais c'est injuste parce que il est accusé de choses littéralement qu'il n'a pas faites. Donc on reste confiant en notre justice parce qu'ils n'ont rien trouvé. Ils continuent leur investigation et puis la vérité finira par se dévoiler.
Parmi ces 9 personnes dans le viseur de la justice, une a eu un procès et a été sanctionnée pour ses déclarations médiatiques sur le racisme en Tunisie. L'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmeni. Le jugement en appel de sa condamnation à 2 ans de prison doit avoir lieu ce vendredi. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
13h43 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, une maison d'édition fermée en Algérie pour atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Et les sports du basket, la NBA délocalise 2 matchs à Paris. Première rencontre ce soir à l'Accor Arena. Les réseaux sociaux sont suspendus au Soudan du Sud, annonce hier de l'Autorité nationale des communications. Après les violences qui ont éclaté à Djouba contre la communauté soudanaise, les autorités expliquent que ces violences ont été provoquées par la diffusion sur Internet de vidéos montrant des Sud-Soudanais assassiné de l'autre côté de la frontière, Gaëlle Lalex.
La population sud-soudanaise a été exposée sur les réseaux sociaux à des niveaux de violence extrêmes sans précédent, écrit la lettre de l'Autorité nationale des communications. Elle se veut néanmoins rassurante. Cette suspension ne pourra excéder 90 jours. Et cette directive peut être levée dès que la situation sera contenue. Bannir les plateformes en totalité est inacceptable, s'indigne Edmund Yakani, président de la CEPO, l'Organisation pour l'autonomisation des communautés, un organe de la société civile. Il regrette que l'autorité nationale des communications ne se soit pas contentée de bloquer les comptes de ceux qui relayent des propos haineux. La coalition du peuple pour l'action civique voit quant à elle, dans cette mesure, une tentative de museler la dissidence et d'étouffer les voix des citoyens. Dans un communiqué, elle dénonce les méthodes d'un gouvernement autocratique. Début décembre, alors que le SPLM, le parti au pouvoir, était vivement critiqué sur les réseaux sociaux, son secrétaire général, Peter Lambos, avait alors menacé de fermer toutes les plateformes. Gaël Alex Nairobi, RFI.
C'est une petite maison d'édition algérienne qui porte un très grand nom et elle vient d'être fermée pour 6 mois sur décision des autorités. Les éditions Frantz Fanon, basées à Boumerdès sur la côte Est, sont sous scellés depuis le 14 janvier. Le Wali, le préfet de la région, a pris cette décision pour atteinte à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'à l'identité nationale et colporter un discours de haine en cause. La parution d'un livre sur l'histoire du judaïsme en Algérie, François Mazet.
Dans l'Algérie juive, l'autre moi que je connais si peu, l'universitaire franco-algérienne Edia Ben Sali retrace l'histoire du judaïsme dans son pays de l'Antiquité à l'indépendance. Ce livre ne contient pas une virgule ni un mot de trop, estime son éditeur. D'ailleurs, paru en août 2023, il est diffusé sans difficulté jusqu'en octobre 2024, moment où les éditions Frantz Fanon souhaitent organiser la venue de l'auteur pour des rencontres dans des librairies algérienne. Le livre est alors attaqué sur les réseaux sociaux et des personnalités politiques islamistes saisissent le gouvernement. Le 23 octobre, la maison d'édition est accusée d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'à l'identité nationale et colporte un discours de haine selon le procureur. Les mêmes accusations sont reprises la semaine dernière par le Wali de Boumerdès pour justifier la fermeture pour 6 mois. Une décision illégale selon la maison d'édition pour qui l'administration ne peut empiéter sur une procédure judiciaire en cours. Fondée en 2014 avec l'accord des ayants droit du psychiatre martiniquais anticolonialiste, les éditions Frantz Fanon se définissent comme progressistes et critiques de l'état de l'Algérie. Elles constatent les pressions exacerbées sur le monde intellectuel dans le pays.
Et on rappelle que Frantz Fanon, médecin psychiatre affecté en Algérie, avait rejoint le FLN pour défendre l'indépendance du pays. Une grande soirée de basket s'annonce à Paris. La NBA a pris ses quartiers cette semaine dans la capitale française. Deux rencontres du championnat américain sont délocalisées à l'Accor Arena de Bercy. Une double confrontation entre les San Antonio Spurs et Indiana Pacers. L'attraction du match sera bien sûr Victor Wembanyama, la star montante du basket international qui sera soutenue par le public. Mais en face, les Pacers comptent bien gâcher la fête. L'ailier camerounais Pascal Siakam, l'un des éléments majeurs de cette équipe, s'attend un gros combat face au pivot français de 2m22.
C'est un joueur vraiment difficile à couvrir. Il part juste, il fait tout, en fait, en tant que joueur. Donc, ouais, ça sera compliqué. Je pense pas que c'est un boulot qu'on peut faire juste une personne. Ça sera un truc d'équipe. Et bon, ouais, on va essayer de faire ce qu'on peut et essayer de gagner. Ouais, ça sera deux matchs exceptionnels, je pense. Bien sûr qu'on joue contre une bonne équipe et on sait que, ouais, nous sommes à Paris, donc Wemby, les Spurs, tout le monde va de leur côté, mais bon, nous sommes prêts. Ça fait plaisir qu'on va jouer à Paris. Certains du Cameroun vont voir les matchs et tout ça, donc ça fait très plaisir de pouvoir être ici.
Indiana Pacers, San Antonio Spurs, premier des deux matchs ce soir à 19h, temps universel. 13h47 à Paris, Anne Cantner, les grands titres de ce jeudi 23 janvier.
Les réactions aux menaces de guerre commerciale brandies par Donald Trump aujourd'hui encore. Le patron de l'Organisation mondiale de commerce prévient que cela aurait des conséquences catastrophiques. Déclaration alors que le nouveau président américain doit prendre la parole par visioconférence cet après-midi au Forum économique de Davos. L'opération militaire israélienne se poursuit à Jénine en Cisjordanie, troisième journée consécutive. Des centaines de Palestiniens ont quitté le camp de réfugiés de la ville à cause des tirs, des bombardements et de l'utilisation de bulldozers qui ont déjà causé la mort de 12 personnes selon l'autorité palestinienne. Le procureur de la Cour pénale internationale annonce qu'il va demander des mandats d'arrêt contre de hauts dirigeants talibans en Afghanistan à cause de la persécution des femmes dans le pays qui représente un crime contre l'humanité. Et puis les enquêteurs sud-coréens recommandent l'inculpation du président Yoon Suk-yeol pour rébellion et pour abus de pouvoir. Le chef de l'État, suspendu de ses fonctions, est détenu pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre. À peine arrêté, aussitôt relâché. Interpellé à Turin en Italie en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale, le chef de la police judiciaire libyenne, Osama Al-Masri Najim, a donc été remis en liberté 3 jours plus tard, reconduit dans son pays à bord d'un vol spécialement affrété par le gouvernement de Rome, qui invoque un vice de procédure, mais l'affaire, bien sûr, fait scandale. Virginie Colombier, professeure à l'université Luis Guido Carli de Rome et spécialiste de la Libye, est votre invitée, Nicolas Sûr.
Bonjour Virginie Colombier.
Bonjour.
Chef de la police judiciaire, directeur du centre de détention de Mitiga dans la banlieue de Tripoli. Qui est vraiment Osama Al-Massi Najim ?
C'est un personnage malheureusement assez connu, et connu pour des raisons très négatives. Il a un rôle important, il joue un rôle important dans le système carcéral à Tripoli en particulier, et en particulier donc parce que il est responsable de plusieurs centres de détention majeurs, et en particulier du fameux centre de Mitiga, qui est une prison proche de l'aéroport international, et où depuis maintenant plus d'une dizaine d'années sont perpétrées diverses maltraitances, mais aussi des épisodes de torture, de meurtre, de viol. C'est des prisons en fait qui sont en partie sous le contrôle d'une force de sécurité qui a un rôle de plus en plus important au cours des dernières années, qui est une force avec une sorte d'affiliation idéologique, religieuse très conservatrice. Et ces centres de détention concentrent plusieurs milliers de prisonniers, et c'est pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, pour tout un tas de prétextes, parfois les uns cumulés avec les autres. Mais disons que la personnalité d'Al-Masri est bien connue dans ce monde-là. Et c'est évidemment un personnage qui est de ce même fait qu'il contrôle ces centres de détention et un important maillon du dispositif liés au contrôle des migrants qui sont incarcérés en Libye, dans l'Ouest en particulier.
Et dans cette prison de Mitiga qu'Osama Al-Masri Najim, il y a aussi bien des détenus libyens que des migrants.
Oui.
Que lui reproche la CPI ?
Le mandat d'arrêt qui a été émis un peu plus tôt au cours de ce mois indique qu'il est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui ont été commis depuis février 2015 et au cours des années suivantes. Il est suspecté de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, ce qui inclut, donc, comme je disais, meurtre, torture, viol et violences sexuelles, qui auraient été soit commis directement par lui, soit ordonnés par lui à des membres de cette fameuse force de sécurité dont je parlais précédemment.
Les forces spéciales de dissuasion connues sous le nom de RADA.
Exactement.
Alors, il assiste donc à un match de football entre la Juventus et Milan, en Italie. Il est interpellé par les services de police chargés des opérations spéciales. Et 3 jours plus tard, il est libre. Vice de procédure, comme on le dit officiellement à Rome, ou bien le gouvernement Meloni n'a pas voulu se fâcher avec son partenaire libyen. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Disons que depuis 2 ou 3 jours, il y a une grande, grande cacophonie sur ce dossier. Il y a une concomitance entre l'émission du mandat d'arrêt par la CPI et la diffusion d'informations donc par les canaux habituels aux différents gouvernements qui pouvaient être concernés en Europe pour indiquer où se trouvait El-Masri. Il était donc à Turin, il a été arrêté, il a été relâché 2 jours plus tard, comme vous le dites. Et aujourd'hui, et depuis 2 jours, à Rome, il y a une sorte d'imbroglio où les principaux responsables du gouvernement se rejettent la faute les uns les autres, parce qu'évidemment ça fait un très mauvais effet d'avoir une personne qui est inculpée de ce type de crime par la CPI, qui fait l'objet également d'une notice rouge d'Interpol, qui a été libérée rapidement. C'est difficile, on n'a pas encore tous les éléments sur ce qui s'est réellement passé. Mais très clairement, il y a une tonalité très politique à cette affaire, et certains éléments de la presse italienne ce matin disent que, ou en tout cas soupçonnent que derrière cette opération peu claire, il y a la volonté d'éviter de créer des problèmes avec les partenaires libyens, qui évidemment jouent un rôle absolument central dans les politiques de contrôle des frontières et de contrôle de la migration qui sont au cœur du programme du gouvernement de Madame Meloni.
Oui, parce que le gouvernement italien a besoin de la Libye pour empêcher les départs de migrants, notamment vers l'Italie.
Bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Depuis déjà maintenant une dizaine d'années, la coopération entre les autorités italiennes et les diverses forces politiques et de sécurité en Libye sont centrales dans les tentatives d'assurer un meilleur contrôle des frontières. Il y a une sorte d'opération opération depuis 2017 qui consiste à externaliser le contrôle des frontières et de ce fait-là de donner beaucoup de responsabilités et aussi d'essayer d'appuyer en termes de moyens les gardes-côtes libyens par exemple et donc de faire tout ce qui est en leur possible pour s'assurer que les Libyens gardent les migrants chez eux et empêchent les traversées avec bien sûr toutes les conséquences dont on parle assez régulièrement en termes de évidemment de traitement et de violation des droits humains, des conditions de détention des migrants en Libye et aussi du renforcement en Libye même d'un certain nombre de groupes qui sont très étroitement liés au trafic d'êtres humains, au trafic dans certains cas également de carburant, etc. Mais pour le gouvernement Meloni, cette question du contrôle migratoire est encore plus centrale peut-être qu'elle n'a été pour les précédents gouvernements. Et donc, évidemment, cette question aujourd'hui est une question qui est très importante en termes d'image publique et de crédibilité pour le gouvernement italien.
Et l'Italie n'est pas la seule à avoir besoin de la coopération des différentes autorités libyennes. C'est aussi le cas, en fait, pour toute l'Union européenne.
Oui, parce que, évidemment, l'Italie se trouve en première ligne sur ce dossier de la gestion des arrivées de migrants sur le territoire de l'Union européenne. Et il y a eu, au cours des dernières années, en particulier à travers une sorte de renforcement de la coopération entre la Commission européenne, incarnée par Madame von der Leyen, et la présidente du Conseil, et Meloni, d'essayer de travailler davantage en partenariat et donc d'avoir des politiques qui, dans tous les cas, sont centrées sur cette même stratégie, externaliser le contrôle de la frontière, en faire une question de sécurité et donc travailler en Libye, mais pas seulement. On a vu un phénomène du même type avec des accords conclus avec également le gouvernement tunisien et avec le gouvernement égyptien. Donc c'est quelque chose qui est devenu très central en fait dans les politiques non seulement du gouvernement italien, mais également de la Commission européenne, en particulier au cours des quelques dernières années.
Merci Virginie Colombier. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. C'est l'histoire d'un secret de femme devenu accessoire de beauté. Les bayas ont été longtemps réservés à l'intimité du couple, mais ces bijoux de hanches en perles, en bois, en noix ou en plastique, dans leur version la plus accessible, sont désormais portés bien en évidence en Côte d'Ivoire par la jeunesse citadine comme accessoire de mode, ce qui n'est pas sans faire tiquer leurs aînés. À Abidjan, le reportage de Marine Janin.
C'est un secret de femme qui se transmet de génération en génération. On met d'abord les bayas aux petites filles en bas âge car ils sont supposés affiner la taille pendant la croissance. Mais une fois adultes, ils deviennent un puissant outil de séduction. Betty Conan, propriétaire de restaurant à Cocody Bonoumain, dit porter jusqu'à une vingtaine de bayas à la fois.
C'est pour séduire, on sent que tu es une femme. Ça excite ton homme. C'est toujours caché pour nous. Les femmes d'un certain âge, ça ne se montre pas, c'est dans la chambre. On cache, c'est dans la chambre, l'homme découvre. Mais ça dépend, les jeunes préfèrent montrer. Le monde évolue.
Car pour la jeunesse abidjanaise, branchée et cosmopolite, les bayas sont désormais souvent désexualisés pour être utilisés comme un simple ornement, au risque d'un choc des générations, signale Marie-Hélène Banimbadio-Toussiama, qui tient un compte Instagram consacré à la beauté féminine dans l'audiovisuel en Côte d'Ivoire.
J'ai pas mal de jeans taille basse et du coup ça fait que les bayas en fait ressortaient de manière un peu instinctive. Comme si j'avais juste une belle ceinture, juste avec des perles, etc. Pour moi, c'était un ornement au même titre que mes bracelets, donc je le mettais un peu tout le temps jusqu'à ce que je me prenne plein de remarques, du style genre « Ah, mais ma chérie, il faut cacher ça, des tentures au marché. » J'ai commencé à le regarder aussi différemment et me dire « Ah, c'est pas forcément un bijou anodin. » Quand on est à la plage, j'ai l'impression qu'avec les bayas, ça passe mieux, je trouve. Et surtout aussi en soirée, qu'on est tous dans le noir, à chaque fois je me dis, bon c'est joli en soirée, juste je vais danser et ça va se voir un peu. Vraiment c'est dans ces deux contextes-là, je trouve qu'on les retrouve plus.
Mais les bayas permettent aussi de renouer avec la tradition, puisqu'ils sont investis d'une dimension symbolique et rituelle, souligne l'artiste et curatrice Lirame Ouattara, qui a choisi de porter les siens par-dessus ses vêtements.
Là je porte un baya de ma grand-mère, donc quand je le porte, pour moi c'est hégémonie matrimoniale. C'est un mode... Ma grand-mère, son bagage que je mets sur mes reins aujourd'hui dans cet environnement-là. C'est des bayas baoulés, c'est identitaire. Donc je revitalise l'héritage que ma grand-mère m'a passé parce qu'il reste pas dans mes tiroirs. Je porte ma culture. Donc c'est tout un bagage porté aux reins très simplement, montré
pour être partagé finalement.
Un héritage commun à la plupart des cultures ouest-africaines, puisque si le terme baya vient du malinké, le même objet est appelé binbin en wolof et aflema dans les langues akan. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et c'est à Abidjan que se referme cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond, Virgile Durand et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RFI. Dans moins d'une minute, vous retrouvez Anne Cantner pour le rendez-vous de Haïti et des Amériques. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, 30 minutes d'infos en full day. Et en Afrique lusophone, notre session en langue portugaise. Très bonne journée, à demain.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.